بسم الله الرحمن الرحيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية.
الدعوة السلفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Les éditions d'Awa.com vous présentent la série de cours intitulée
L'importance du Tawhid en Islam
du frère Samir. Cours numéro 8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا المسمى منزلة التوحيد في الإسلام. Donc aujourd'hui nous allons entamer, mes chers frères, le cours numéro 8 concernant la série intitulée L'importance du Tawhid en Islam. Il y a quand même trois mots que je vais répéter parce que ce sont des mots qui sont importants et qu'il faut bien que ça rentre dans les esprits. C'est le mot iman, le mot tawhid et le mot aqida. Le mot aqida, hada ismun jami' wa ismu tawhid ismun khas wal iman ismun yashmalu kullu ma ya'taqiduhu al muslim wal muslima. Le mot aqida, c'est un mot qui regroupe ce que tout croyant et croyante doit connaître de la foi, tel que les livres, la descente des livres, l'envoyé des messagers, des prophètes, le jour du jugement dernier, la prédestination, le monde invisible, les djinns, les génies, les anges. Ça, c'est l'aqida. Quand on dit c'est quoi l'aqida, c'est un mot qui englobe tout ce qu'on vient d'énumérer. Quand on te dit tawhid, c'est quoi le tawhid? Ça, c'est ism khas. C'est un nom spécifique à une chose bien déterminée. Et en général, on l'utilise pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour exprimer ici l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid fi haqqillahi thalath. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité se divise en trois. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya wa Tawhid al-Asma wa Sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que roi, en tant que créateur, en tant que maître de l'univers, c'est lui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Ça, c'est Tawhid al-Rububiyya. Ça, je répète, mais ça a déjà été enregistré. Je ne reviendrai pas là-dessus longtemps. Tawhid al-Uluhiyya, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ça y est, tu as reconnu ton maître, tu as reconnu le roi dans son royaume, tu as reconnu ton seigneur, tu as reconnu ton créateur en tant que seigneur de l'univers, comme on a dit. Tu lui dois adoration totale, sans rien lui associer. Ça, c'est Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu lillah, as-siyamu lillah, an-nadru lillah, الدعاء لله، الذبح لله، الطواف لله، الحلف بالله. Tout ce que tu vas faire, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Wal-Iman, c'est quoi l'Iman? Ça là, je vous ai vraiment dit en une phrase, hein, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but de la leçon. Wal-Iman, c'est la croyance en At-Tawhid Billah et en Bil-Aqida, et tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Wal-Iman, c'est la foi en ces choses-là. Donc quand vous rencontrez dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'Iman, l'Iman c'est quoi? C'est tout ce qu'on a énuméré. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Qui avait cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, en la prédestination, bien que mal, au jour du jugement dernier? C'est ça l'Iman. Et dans l'Iman entre Tawhid et Aqida. Et dans l'Aqida rentre le Tawhid. Et Tawhid il est spécifique à lui tout seul. Après les ulama qui ont travaillé fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont après dit aussi il y a le tawhid fi haqq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le tawhid fi haqq ar-rasul c'est quoi? C'est dans le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est l'unicité dans le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entreprendre, tu le feras selon le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. Tout ce que tu vas entreprendre, tu ne vas pas le faire parce que ton shir t'a dit de le faire. Ton shir, si c'est un shir, quand je dis un shir, c'est un savant, un reconnu. Si c'est quelqu'un qui a étudié la science, la science, elle se prend de la bouche des savants. C'est pas tu connais Alif al-Bata, tu vas prendre un livre et tu vas commencer à traduire de ta tête. Là, c'est pas ça la science. C'est pas ça la science. La science, elle se prend de la bouche des savants. Reconnu min ahli sunnati wal jama'a. Il y a entre l'Ahle Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna qui se sont regroupés pour elle, il y a les autres, les gens de l'innovation, Ahle al-Bida' wal Furqa, et qui se sont séparés. Hatta Ahle al-Bida', tu les vois, les gens de l'innovation, entre eux, ils ne sont pas d'accord. L'autre, il va instaurer une innovation, l'autre, il ne va pas être d'accord. Et tous les deux, ils ont une innovation qui est différente de l'autre. Et lui, il va dire à toi, ce que tu es en train de faire, c'est une Bida', mais lui, il ne voit pas que lui, il est en train de faire une grosse Bida' aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a. Ça, ce sont des termes qu'il faut que maintenant vous connaissez. Pourquoi? Parce que vous allez les rencontrer à chaque fois dans les livres, dans les cassettes, dans la bouche des ulama, ils en parlent. Ils parlent de Aqida, ils parlent de Tawhid, ils parlent de Menhaj, ils parlent de... On rencontre ces termes-là. At-Tawhid fil Fahm. At-Tawhid fil Fahm. Le Tawhid dans la compréhension. Cette compréhension du Din, la compréhension qu'on a du Qur'an, la compréhension qu'on a de la Sunna, elle ne doit pas être faite non plus aussi ici par notre compréhension. Nous, on est qui? Nous, la chaye. On n'est rien, nous. Nous, on fait que suivre. Kullu khairin fi man ittaba'. Wa kullu sharrin fi ibtida' man khalaf. Barakallahu fik. Tout le bien, il est où? Il est dans le suivi de ceux qui nous ont précédés. Et tout le mal, il est où? Dans ce qui a été œuvré après ceux qui ont été précédés. Si tu innoves en religion, c'est un mal. Pourquoi? Parce que le dîn il est parachevé, ça y est, le prophète alayhi salatu wasallam nous a tout enseigné. On n'a pas à rajouter ou à diminuer de ce que le prophète alayhi salatu wasallam a enseigné. Alors aujourd'hui, quand tu vois des imams, quand tu vois des professeurs, ils parlent, ils ne sont même pas reconnus. On ne sait même pas s'ils ont étudié. Sous prétexte qu'ils connaissent un petit peu la langue arabe, ils vont t'ouvrir des livres, ils vont te faire des dourous, ils vont te faire ceci. Ils font plus de mal que de bien. Et on le voit. On le voit. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, quand vous voulez vous adresser aux femmes, mettez un hijab. Ça ne veut pas dire qu'elles mettent le hijab ça, comme ça. Ça, bien sûr, ça rentre dans ce mot-là. Mais le hijab, c'est la séparation qui est entre les femmes et les hommes. Ben, quand tu vois des fois des conférences qu'ils se font, tu as des frères et des sœurs. Ils sont ensemble dans la même salle. Et des fois, tu les vois côte à côte. Les frères d'un côté ici, les sœurs de l'autre. Alors, on se demande si après... on vient pour écouter l'audace ou si on vient pour autre chose. Subhanallah. L'insan da'if, l'homme il est faible comme la femme. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas permises. On doit parler derrière un hijab. Il ne t'est pas interdit de parler avec une femme. Et encore, ça dépend de quoi tu dois parler. Ça dépend de quoi tu dois parler. Si c'est une femme qui vient poser une question pour son dîn, on est obligé de lui répondre. C'est le ulama qui leur répond. Mais si c'est pour parler de la pluie du beau temps, là, Adala Yajouz, c'est pas ta femme, pourquoi tu veux parler avec elle de la pluie du beau temps? Là? On s'est éloigné de la religion. Wallah, on s'est éloigné de la religion. On entend des choses encore avec l'internet. Il y a des sœurs et des frères qui conversent en même temps par l'intermédiaire de l'internet. Et ils s'écrivent des mots et des lettres, et je t'envoie des messages, et je fais la conversation et tout. Eshada! Eshada, c'est quoi ça? Tu n'as pas parlé avec cette femme comme la femme n'a pas parlé avec cet homme. Ils ne sont pas mari et femme, ils ne sont pas frères et sœurs. Ils n'ont aucun lien de parenté. Tu n'as pas le droit. Tu fais la conversation avec une sœur, ma sœur, et mon frère, tu fais la conversation avec un frère. Oui, mais c'était pour lui apprendre dîne. Là, c'est une sœur qui va lui apprendre dîne. Oui, elle va m'apprendre dîne. Non, c'est un frère qui t'apprend dîne. L'homme pour l'homme et la femme pour la femme, c'est tout. Ça, c'est notre éloignement de la religion. C'est notre éloignement de la sunna du prophète. Il y a beaucoup de gens qui ont compris de la sunna que sunna, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Là, ce que le prophète il a fait, c'est obligatoire. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que le prophète vous donne, vous ordonne de le faire, il faut le faire. Et ce qu'il vous a dit de vous éloigner, il faut s'en éloigner. Et craignez Allah, car Allah est douloureux en châtiment. Subhanallah. Pourquoi? Tu crois que le prophète, il a fait les choses gratuites? Il est venu comme ça, il a fait, il a dit bon, ce qu'il veut faire, il veut faire. Ce qu'il veut pas faire, il est libre de ne pas faire. Les compagnons, c'est pas comme ça qu'ils pensaient. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit retournez à la compréhension des compagnons. Comment les compagnons ils ont compris le nas? Comment ils ont compris le texte? Nous, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Non, c'est sunna, c'est-à-dire c'est pas obligatoire, alors je le fais pas. Yahri, t'es darif, ton adoration elle est faible, ta compréhension du dîn elle est faible, tout est faible chez nous à notre époque. Alors si maintenant on s'éloigne d'une chose aussi qui sous prétexte est sunna, alors on s'éloigne alors de plus en plus. Yahri, c'est pas parce que c'est une sunna. Le prophète alayhi salatu wasallam, il n'a pas fait les choses gratuites. Il y a des choses qui sont attribuées à Khaz bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qui sont spécifiques au prophète alayhi salatu wasallam que toi tu ne peux pas faire. Mais il y a des choses qui ils te sont enseignées par le prophète alayhi salatu wasallam. Pourquoi tu ne les fais pas? Je vais vous donner un exemple de sunna qui a été délaissé. On vous avait parlé une fois de deux rak'at qui se fait après l'asr. C'est une sunna qui a été délaissée. À tel point qu'il y a des gens, ils viennent et te disent: ouais, mais tu sais, moi j'ai regardé les livres des madahib, les quatre madahib, ils n'en parlent pas. Yahri, moi je te parle de Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai pas parlé de Qala al-madahib. Je dis Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit et a fait. Je ne t'ai pas dit Qala al-madahib. Nous on est d'accord, tu veux suivre un madahib, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que le madahib va à l'encontre de la sonne du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prends le hadith. Nahnu madhabuna, madhab al-hadith sahih. Notre madhab qu'on suit, c'est quoi? C'est on suit le hadith sahih. Est-ce que le hadith il est authentique? Oui, je le suis. Il n'est pas authentique, je le laisse, ça s'arrête là. Combien de fois on a vu des gens, ils laissaient un hadith sahih, pourquoi? Parce que sous prétexte dans son madhhab, il n'a pas été cité. Ça c'est de l'égarement ça. Ça c'est tarasub al-madhhab al-madmoum. C'est le fait de s'entêter dans un madhhab aveuglément. Tu t'aveugles dans un madhhab, sous prétexte que tu es de ce madhhab là, tu n'as pas le droit de faire autre chose. Pourquoi quand on dit à chaque fois retourner au Coran et à la Sunna? La Sunna c'est le hadith authentique. Le prophète alayhi salatu wasalam il a dit, il a fait Allah mabarak, sinon salam alaykoum. C'est tout. Il y a un mal à dire ça ou à faire ça? Il y a un mal quand on dit retourner aux sources? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est normal, le prophète alayhi salatu wasalam il ne vit pas avec nous. C'est normal, les compagnons ne vivent pas avec nous. C'est pour ça qu'on délaisse les choses. Si tu avais le prophète alayhi salatu wasalam, et les compagnons avec toi, ça serait différent. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu vas suivre le kitab ou le sunnah. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Regarde Abu Lahab, regarde Abu Jahl. Ils sont où ces gens-là? Ils sont en enfer. Et on n'a pas de doute dans ce qu'on dit. Donc quoi? Binas al-Qur'an ou binas al-Hadith. Ils voyaient le prophète alayhi salatu wasalam. Et ils faisaient du mal au prophète alayhi salatu wasalam. Ils voyaient les compagnons. Et ils ont fait du mal aux compagnons. Nous on se dit, ouais, si on avait vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, ça aurait été différent. Là, yahri, aujourd'hui tu as la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, tu la mets même pas en application. Elle est où la différence? Leur époque, c'était. Ils avaient aussi des fitnas. Comme nous, à notre époque, on a des fitnas. Et encore, leur époque était encore plus terrible que la nôtre. Elle était encore plus terrible. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, pour avoir compilé son sahih, combien de temps il a mis et sur combien de hadiths il s'est basé? Son recueil, il comporte à peu près 7000 et quelques hadiths. Sur combien? Sur plus de 100 000 hadiths, il a fait le choix de ses sahih. Plus de 100 000 hadiths, il en a choisi que 7000 et quelques. Et quand il voulait prendre un hadith sahih et qu'il entendait que dans tel village ou tel pays ou tel endroit, il voyageait 3 mois, 4 mois pour arriver là-bas pour prendre le hadith. Alors que toi aujourd'hui, tu vas à la librairie, salam alaykoum mon frère, je voudrais sahih al-Bukhari. Tiens, il sort sahih al-Bukhari en un seul volume. Tu as déjà tous les hadiths devant toi. Eh oui mon frère. Regarde ton Abdelhaim comment il vivait. Regarde comment les étudiants en sciences religieuses vivaient. Tu crois qu'ils mangeaient toujours du poulet rôti, des bonnes nourritures comme ça? Une fois, on vous a déjà raconté l'histoire de deux étudiants. Ils en ont profité que leur professeur était malade. Ils se sont dit, allez, aujourd'hui, on va aller au marché, on va acheter un poisson. Ils sont partis, ils ont acheté un poisson, ils se sont dit, on va faire une petite gamelle avec un bon poisson bien et tout, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger ça. Ils n'ont pas le temps. En revenant du marché pour aller en direction de leur demeure, là où ils vivaient, ils ont rencontré le professeur. Le professeur l'a fait, bon, je vous attends à la mosquée. Hein. Ils ont mangé le poisson cru comme ça en marchant. Ils n'ont même pas eu le temps de rentrer pour le faire cuire. Ils l'ont mangé cru, le poisson. Tu vois? Nous, alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut. Mais illa man rahima rabbi minna. Des fois, tu fais passer des cassettes, des fois, tu fais passer des photocopies, des fois, tu fais passer des choses comme ça. Tu dis au frère, alhamdoulilah, t'as écouté un petit peu la cassette, t'as lu les tracts et tout. Tu dis, voilà, j'ai pas eu le temps, mon frère. T'as pas eu le temps, alors t'as eu le temps de quoi faire? J'ai pas eu le temps. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a un trésor qui s'appelle le Jannah. Dans le Jannah, il y a des degrés. Plus tu œuvres sur terre et plus tu montes en degrés. C'est à toi de choisir le degré que tu veux, mon frère. C'est à toi de savoir le degré que tu veux. Plus tu veux être élevé en degré, plus tu dois travailler. Si tu veux avoir un petit degré, ben c'est entre toi et ton degré. C'est tout. Mais ce trésor-là, on regrettera. On se dira, si simplement on avait fait plus que ça, on aurait eu des degrés encore plus hauts et plus, on serait encore dans des... Ah oui. Nous, on ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas. Les Sahaba, ils ne perdaient pas leur temps. Les compagnons, ils ne perdaient pas leur temps. Les compagnons, dès qu'ils entendaient, ils voyaient le prophète alayhi salatu wasalam faire une chose, ils la mettaient en application avant même de demander. Et après, ils disaient, ya Rasulallah, nous t'avons vu faire ça. C'est quoi là, la sagesse de cette chose-là? Il leur expliquait. Pour revenir à Salat al-Asr, c'est une sunnah qui a été perdue. Tu fais deux rak'at après Salat al-Asr, mais tu as un temps à ne pas dépasser. C'est jusqu'à Qabla Isfirar al-Shams, avant que le soleil ne jaunisse, entre la prière du Asr et ce temps-là, il faut compter à peu près 40-45 minutes. Tu peux faire rak'atin, tu peux faire rak'at. C'est une sunnah qui a été instaurée par le prophète, alayhi salatu wasalam. Et j'ai trouvé un autre hadith qui vient nous donner aussi une autre faïda en plus, c'est que Omar ibn al-Khattab, il a vu un compagnon, donc, après les Salat al-Farid al-Asr, après la prière obligatoire qu'il a faite, il a vu un compagnon se lever tout de suite, faire les deux rak'at. Ah, il a interrompu. Il a dit non, c'est pas comme ça la méthode. Et ici, il y a une faïda à retenir, que beaucoup de nos frères négligent. C'est qu'entre la prière obligatoire et la sunna, les deux rak'at, ils ne la séparent pas avec du dhikr. Ou avec un déplacement ou avec un dialogue. Il se lève. L'imam il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il lui dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il se lève et fait ses deux rak'at. Que ce soit pour Dhuhr ou la Maghrib ou la Isha. Alors que non, il doit y avoir un fasl. Et Omar ibn Khattab, quand il l'a vu faire, il lui dit non. Sépare ta prière obligatoire de ta surérogatoire avec du dhikr. Avec une parole, avec quelque chose. Pour bien faire voir qu'il y a un fasl. Et hada min as-sunnah. Quand tu fais Dhuhr, de ne pas se lever mubasharatan. Tu fais ton dhikr. Tu te déplaces, tu vas voir ton frère, salam alaikum, etc. Tu discutes avec lui. Et après, tu fais tes deux rak'at. Et ça peut prendre 30 secondes. Pas obligé que ça prenne une demi-heure. Ça, on rencontre beaucoup ça, cette erreur chez qui? Chez nos frères turcs, nos frères pakistanais, nos frères indiens. Eux, ils ont beaucoup ça. Dès que l'imam il a dit salam alaikum, hop, ils se lèvent, ils font tout de suite leur rak'at sunna, sans séparation. Là, la sunna ici, c'est de séparer la prière obligatoire avec la prière sunna. Donc on rentre dans le vif du sujet. On avait lu la semaine dernière un petit passage qu'on va reprendre aujourd'hui. وَقَدْ بَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبَحْثَةِ. Donc après la révélation, une fois que le prophète soit devenu prophète, Il est resté 13 ans. Thalatha ashara aman fi Makkata. Combien de temps? 13 ans il est resté à Mecca, le prophète alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce qu'il est resté faire? Yad'u an-nasa ila at-tawhid. Il a invité les gens ila at-tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les gens ils adoraient avec Allah? Les gens adoraient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu leur posais la question, tu leur disais qui est le créateur? Qui c'est qui vous a créé? Qui a créé les cieux et la terre? Ils vont te répondre très certainement c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ils le savaient très bien. Mais ils adoraient avec Allah. Oui, le dieu de la pluie, le dieu du soleil, le dieu de la nuit, le dieu de la chance, le dieu de tout cela, tout ça. Et il y a avec tout ça, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'était qui? C'était le créateur de toutes choses. Le prophète, combien de temps il a mis? Il a mis 13 ans. 13 ans. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu parles avec eux, ou ils te parlent, ils te disent, oui, mais vous, vous parlez que de aqida, 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 et c'est toujours la même chose qui est répétée, toutes choses là. Je te pose une question, ya akhil jahel, je te promets que tu ne vas pas pouvoir me répondre. Pas que moi, moi je suis faible devant les grands ulama, je ne suis rien du tout. Mais pourquoi les faire fatiguer les grands ulama quand c'est des petites questions? Tu lui poses une petite question, il ne va pas savoir te répondre. Et ils te disent, oui, mais vous parlez que de aqida, 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 mon frère. Il y a des choses plus importantes. Ah bon, moi j'ai pas encore vu des choses plus importantes que Tawhid et que Aqidah. C'est la base, c'est les fondements. Si t'as pas une bonne Aqidah, tout ce qui suit est mauvais. Tout ce qui suit est mauvais. Là, tu te dis, non mais Aqidah ça se parle en 10 minutes. Ah oui, maintenant tu connais mieux que le prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète il est resté combien de temps? 13 ans à Mecca. Il parlait de Aqidah, Tawhid, Aqidah, Tawhid, Aqidah, Tawhid. Et lui vient, il va te dire, non, en 10 minutes aujourd'hui c'est suffisant de parler de Aqidah. On peut lui répondre à ce frère, on lui dit, non, ça met moins que 10 minutes. Ça met 27 secondes. Ou peut-être moins. C'est quoi l'iman? L'iman au billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa liyum al-akhir wa qadri khayri wa sharri wa al-ba'thi ba'da al-maut. Combien? 10 secondes, même pas. Voilà, c'est ça l'iman. C'est ça la foi. Mais il y a ce qu'on appelle l'iman al-mufassal. Ou il y a l'iman al-mujmal. L'iman al-mujmal, c'est ce qu'on vient de réciter. En général. L'iman al-mufassal, c'est détaillé. Et là, quand tu rentres dans les détails et que tu expliques les choses, tu t'aperçois qu'effectivement, si le prophète, alayhi salatu wasalam, il a mis 13 ans pour faire da'wah à Makkah, c'est bien pour des raisons. Mais nous, à notre époque, là où nous vivons, c'est pas 13 ans. 13 ans, ça suffit pas. C'est toute une vie. Regarde les ulama al-kibar qui sont décédés, qu'on a connus, les contemporains, comme Sheikh al-Albani, rahimahullah, Sheikh Mughbir, rahimahullah, Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Toute leur vie. La plupart, ils avaient quoi? Cheikh Ibn Baz, il avait plus de 90 ans. Cheikh Al-Albani, il avait 89. Cheikh Al-Uthaymin, il était pas loin des 80 ans. Cheikh Mughbir, lui, bon, parce qu'il était atteint d'une maladie, il est mort jeune à 67 ans. Mais la plupart des grands ulama, même ceux qui sont encore vivants, ils vont te parler dans leur durus de Aqidah Tawhid, Aqidah Tawhid, Aqidah Tawhid. Même s'il va te faire un vers sur le fiqh, il va te faire une parenthèse. Pourquoi? Parce que c'est très très important. Toute une vie, aujourd'hui, nous, on est obligés de parler de Tawhid, Aqidah Tawhid, Aqidah Tawhid, Aqidah. Pourquoi? Il t'est arrivé une épreuve, tout de suite tu ne sais même plus où tourner de la face. Il t'est arrivé une épreuve, c'est fini, tu ne sais même plus où te... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? T'es perdu, t'es perturbé. Pourquoi? Parce que justement, t'es pas comme une montagne. T'es pas comme une montagne, ta aqida elle est pas bien fondée. Si t'avais une bonne aqida bien fondée. Il y a un conférencier qui vient au Bourget chaque année. C'est pas important de donner les noms pour le moment. Alors il y a une question, parce qu'il a ouvert la question, il a ouvert un quart d'heure ou une demi-heure de questions-réponses, ça y est, c'est devenu un alim. Alors il faut qu'il donne les réponses aux questions posées. Il y a une question qui arrive, il déplie le dépliant et il lit. La question est, il lit comme ça, il dit, il y a des frères, quand on les rencontre, ils posent la question, où est Allah? Que doit-on répondre à ce genre de questions ou à ses frères? Il prend la feuille comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces genres de frères-là, ils vont arrêter de nous saouler avec ce genre de questions. Il y a d'autres questions plus importantes que ça. Allahu Akbar. Fadallou wa adallou. Fadallou wa adallou. Ils se sont égarés eux-mêmes, ils veulent égarer autrui. On vous a dit, nous, nos durus, ce n'est pas des durus faits avec un français de littérature, ou un français technique, ou un français scientifique, où tu me regardes dans les yeux, et je te regarde dans les yeux, t'as compris, t'as rien compris, salam alaykoum mon frère, et on s'en va. Non, nous, notre conversation qu'on est en train de donner là, c'est avec un français moyen, un français accessible à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre. Quand vous sortez d'ici, vous allez comprendre quelque chose de votre religion. C'est ça le but. pour faire des grandes conférences avec un français incompréhensible, ça ne nous intéresse pas ces choses-là. Ça ne nous intéresse pas ces choses-là. On veut que quand vous sortez d'ici, vous avez compris quelque chose, vous avez retenu quelque chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parlait, il répétait deux fois, trois fois la même chose. Celui qui n'a pas compris, celui qui n'a pas entendu, il répétait. Il avait un arabe compréhensible. Il ne parlait pas avec des mots, comme certains veulent nous faire croire. Non, non, tu sais, il faut parler bien avec des mots scientifiques et techniques. Oui, mais si c'est pour que tu me regardes et je te regarde et qu'on ne se comprenne pas, c'est pas la peine. Je pourrais me prendre un livre en chinois, là, et je te dis le chinois. Ching, fang, ching, fang, tu me regardes. T'as compris, j'ai rien compris, moi non plus d'ailleurs. Là, il est où le but de ça? Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est la compréhension. Alors quand on te dit aussi, par exemple, que attends, il ne faut pas expliquer les versets, et puis il ne faut pas expliquer les hadiths, il faut prendre la lumière du verset, il faut prendre la lumière du hadith. Masha'Allah. La lumière, elle est où? Dans l'ignorance. La lumière, elle est dans la compréhension de ce que tu es en train de lire. Nous, on lit simplement le hadith. On lit, on n'explique pas. Parce qu'on ne sait jamais, au cas où, si dans l'assemblée, il y a un savant, il risque de nous dire, ah, il risque de vous dire, parce que vous savez que vous n'avez pas de science. C'est pour ça que vous avez peur qu'il vous dise. Mais nous, au contraire, alhamdoulilah, nous, on explique de ce qu'on a compris par l'intermédiaire de nos études. Comme ça, même s'il y a un savant parmi nous, il voit qu'il y a une erreur, il fait la rectification. Ahlan wa sahlan. Au contraire, on est là, on accepte. Il y a un savant parmi nous, j'ai pas compris, trop bien. Explique-nous ce que ça veut dire le verset, explique-nous ce que ça veut dire le hadith. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est digne, ça. Ça, c'est ton paradis ou c'est ton enfer, mon frère. Il y a des gens, ils n'acceptent pas la nasiha. Des gens, tu viens, tu leur fais une nasiha, un conseil, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة إلى فين توجد العقيدة 13 ans le prophète عليه الصلاة والسلام. Mais quand tu vas parler à ces gens-là qui te disent oui mais vous n'avez pas compris ce que veut dire cette phrase-là, ça c'était le prophète عليه الصلاة والسلام. Et nous on est qui? Nous on suit le prophète عليه الصلاة والسلام. On suit. Donc si on suit le prophète عليه الصلاة والسلام, on le suit même dans sa da'wa. Comment il a fait da'wa? Par quoi il a commencé? Par quoi il a commencé? لِأَنَّهَا الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بِنَاءُ الدِّينِ. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu commences le fondement de ta religion. Comme on vous a dit, si vous n'avez pas une bonne aqida en béton, tout ce que tu vas entreprendre après, ça va tomber à l'eau. Que ce soit ta prière, que ce soit ton jeûne. Des fois, il y a des gens, quand ils jurent, je te jure sur la tête de ma mère. Laisse ta mère tranquille, mon frère. Ashhada. Hadala yajouz. Je te jure sur la tête de mon chien. Eh oui. Il y en a même dans nos pays, quand ils te jurent en arabe comme ça, on rassume la jizan. Et des fois, pourquoi ils jurent par ces personnes-là? Vous voulez que je dise pourquoi ils jurent par ces personnes-là? Parce que ce sont les gens les mieux estimés. La mère, le père, on rassume la jizan. Ils te jurent parce qu'ils aiment beaucoup. Non, quand on jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, ou là on se tait. Ou bien on ne jure pas. Mais tout ça, c'est des points de aqida. Et encore, moi, je suis gentil de vous donner ce petit exemple pour faire un peu d'humour comme ça. Mais des fois, ceux qui sont dans des sectes soufis, c'est encore plus grave. Yahlifouna bishir. Et quand tu leur dis, non, yahri, ihlif billah, qu'luk, la, 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 ihlifou bishir. Combien de fois on a entendu des gens dire, qul wallah, dis, je te jure en disant, par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dis, non, haq sidi mehriz. Ashhadu. Nous, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Mais c'est grave. Quand ils vont égorger, par exemple, je te donne un autre exemple. Quelqu'un achète une nouvelle maison, il est content de rentrer dans cette nouvelle maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bêcher devant la maison, il va prendre le sang, il va le mettre devant la porte, il va te dire pourquoi? C'est pour éviter le mauvais œil, pour éviter qu'il y ait des mauvaises choses qui rentrent dans ma maison. Et en faisant ça, tu les attires les mauvaises choses. Les coutumes païennes. Je te mets du sang sur les murs pour éviter que les djinns, pour éviter que le mauvais œil, pour éviter ceci, cela. Regarde ces fausses croyances. Mais ça existe jusqu'à présent. Une femme, elle n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans. Alhamdoulilah, elle lui a donné un enfant. Elle va l'égorger à la tombe de Sidi Foulen. Et pourquoi? Parce que Shaitan, ça a des moments pareils où il vient, il met des choubhas, des ambiguïtés. Il vient à la fin pendant 10 ans, elle n'a rien fait. Un jour, on lui dit, écoute, si tu vas séchir Foulen, il va te donner un enfant. Elle, par l'ignorance qu'elle a, elle y va, elle fait deux rak'at, elle demande à Sir Foulan, il y a Sir Foulan, donne-moi un enfant. 9 mois après, elle est enceinte et elle a un enfant. Ah, c'est ça. La femme, ah, bah, t'avais raison. Regarde, J'ai fait ce que tu m'as dit, regarde, aujourd'hui je suis enceinte, j'ai eu un enfant. Et elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va se rappeler? Elle va se rappeler des deux rak'at, elle va pas se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et voilà le shirk billah. Elle va aller le récompenser chaque année. Chaque année, elle va récompenser avec un dbeh. Voilà, je t'égorge un mouton, je t'égorge ceci, cela. Et quand tu lui parles, tu lui dis, mais non, attention, il peut te faire du mal, hein. Attention, il peut venir te voir, attention, il casse avec un ragbar. Et il te tord le cou. Il va sortir de son khabar, maintenant il va sortir de sa tombe, il va venir, et puis il va te tordre le cou. Masha'Allah. Ou bien des fois, encore pire, encore des trucs comme ça, on pourrait vous en citer beaucoup. Des fois, ils vont te voir, par exemple, en rêve, ils vont voir un vieil homme avec un burnous blanc, sur un cheval blanc et tout ça. Le lendemain, il fait, Masha'Allah, j'ai vu Shir Foulain dans mon rêve. Sidi Flan, il est venu me voir dans le rêve. Tu vois? Ça, c'est des fausses croyances. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié notre aqidah. C'est pour ça qu'on dit aux gens, revenez, retournez à la base, retournez aux sources, retournez. Oui, mais regarde les problèmes dans le monde islamique et tout ça. Yahri, tu sais pourquoi il y a ces problèmes-là? Parce que justement, c'est éloigné de notre religion, c'est éloigné de la base. La base, elle n'est pas là, la base. La base, elle n'est pas là. Et ça, c'est la fitna que le prophète a mentionné. C'est la fin des temps. Nous sommes en train de vivre la fin des temps. Entre nous et la fin du monde, combien il existe de temps? Allahu a'lam. Mais on est plus vers la fin que les... Déjà, la venue du prophète, c'est un signe de la fin du monde, du moins des temps. Et il l'a dit dans un hadith, le prophète, que entre moi et la fin, et Yom al-Qiyamah, qui est Hatayn, et Ashara bi Usbu'ihi. Il a fait voir avec son index et son majeur. Il a dit, entre moi et la fin des temps, voilà ce qu'il y a. Il n'y a que ça, la de séparation. Vous savez combien de temps que le prophète, il est mort? 1422. Subhanallah. Tu vois? Tu crois qu'il nous reste encore beaucoup? Non, pour nous, il ne nous reste pas beaucoup. Même si on croit que c'est beaucoup. Et on va vers la fin. إنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين فالتوحيد هو الأصل الذي لا تصح الأعمال. Et si on n'a pas tawhid, tout ce qu'on va entreprendre d'action, ça tombe à l'eau. ولا تقبل إلا إذا كان صحيحا. Et on vous a dit, il y a deux conditions pour que les actions soient acceptées, les actes que l'on fait, ce qu'on dit soient acceptés. La première des choses, première des conditions, c'est l'ikhlas ou l'illah. أي كل عمل لا يوجد فيه إخلاص فالعمل باطل. Tous les actes, tout ce que tu vas faire, s'il n'y a pas l'ikhlas, si tu ne fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le fais pour autrui, c'est batil. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, al-mutaba'a, al-ittiba', le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Je vais vous dire ce qu'on a tendance à faire. On a tendance à s'imaginer et on se dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, akhil karim, barakallahu fik, t'es en train de faire un dash sur l'aqidah, mais je vais t'apprendre une chose. Je lui dis, fatalement frère, les bras ouverts, il n'y a pas de problème. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala, lui a pardonné au prophète ce qu'il a fait comme péché auparavant et après. On sait que le prophète, alayhi salatu wa salam, premièrement, il est ma'soum. Il est infaillible, il ne fait pas de péché. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé avant la prophétie et après la prophétie. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas préservé notre prophète ainsi que les autres prophètes, un jour, si par exemple c'était un ancien voleur, un ancien délinquant, un ancien ceci, cela, il vient et te dit, moi je suis un prophète. Je veux dire, comment toi hier tu étais un voleur, un délinquant, un ceci, un cela, et aujourd'hui tu viens te dire que tu es prophète. C'est pas logique. Allah, il préserve les prophètes avant la prophétie. Pour que comme ça, quand il devient prophète, quand l'heure de la prophétie arrive, les gens vont dire, c'est vrai, nous l'avons connu droit. Nous ne l'avons jamais connu malhonnête. Au contraire, le prophète, alayhi salatu wasalam, kana yulaqab bil amin, l'homme de confiance. Les gens de Mecca venaient lui apporter des dépôts. Et du jour au lendemain, quand il a dit qu'il est prophète, ça, les gens disent, ouais, c'est un imposteur, c'est un magicien, c'est un kadhdab, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un sahar, etc., etc. Le prophète, alayhi salatu wasalam, une fois, il était en train de jouer avec les enfants de Mecca. Il avait à cette époque 12-13 ans. Et son isar, il est tombé. Il est tombé, il s'est évanoui de pudeur. Et tellement qu'il était pudique, le prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé les prophètes ainsi que notre prophète, alayhi salatu wasalam, alayhi salatu wasalam, jami'a. Donc, il va te dire, oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné et on sait que le prophète ne faisait pas de péché. Mais nous, comme on est des pécheurs et qu'on fait des péchés, C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse plus que ce que le prophète alayhi salatu wasalam il a fait. Et voilà la bid'a comment elle est rentrée. T'as vu par quelle porte ils sont rentrés? Ils sont rentrés par cette porte. Ils ont dit mais le prophète lui, mashallah, c'est le prophète. Nous on n'est pas le prophète, on le sait. Donc il faut qu'on fasse plus que le prophète qu'il a fait. Et hop, il commence à innover en religion. Et il y a une chose à savoir, c'est que toute petite bid'a amène une grande bid'a. Il n'y a pas de haut, mais ça c'est une petite bid'a, donc c'est pas grave. Là, le prophète alayhi salatu wasalam a dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Toute innovation en religion est un égarement et tout égarement amène en enfer. Il n'y a pas de ça, c'est une petite bid'a, mais là, c'est une bid'a, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas la faire. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, le fils de Umar ibn al-Khattab, Abdullah, il disait kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Toute innovation en religion, c'est un égarement. Même si les gens ils y voient du bien, s'ils y voient un profit, c'est un égarement. Les compagnons, voilà comment ils comprenaient les paroles du prophète, alayhi salatu wasalam. Pourquoi tu vas te fatiguer à faire une chose qui ne sera même pas acceptée? Pourquoi tu vas faire une chose qui peut t'amener en enfer? Et pourquoi tu tues une sunna? Parce que celui qui vient avec une bid'a, c'est qu'il a tué une sunna. Fais la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. La sunna du prophète veut que tu fasses la chose ou que tu ne la fasses pas, c'est ça. Pourquoi faire plus que ce qui t'est demandé? On connaît tous le fameux hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, où il a entendu parler des trois compagnons que, un, il prie toute la nuit et toute la journée et il ne dort pas. Un, il jeûne toute la journée et toute la nuit il ne mange pas. Et l'autre, il ne se marie pas les femmes. Le prophète, alayhi salatu wasalam, par sa sagesse, il a entendu. Il est monté sur le minbar, il a prêché, il leur a dit, j'ai entendu dire que des gens disaient, il n'a pas dit un tel. Disait que moi je jeûne toute la journée et la nuit je ne mange pas, je prie toute la journée et je prie toute la nuit je ne dors pas et je ne me marie pas les femmes. Il a dit non, moi je jeûne et je romps mon jeûne. Il a dit je prie et je dors et je me marie les femmes. Après qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wasalam, man rariba an sunnati an fi'li falaysa minni ay laysa min hadhihi al-umma. Celui qui va à l'encontre des enseignements du prophète alayhi salatu wasalam, il ne fait pas partie de notre communauté. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces trois compagnons? Ils ont voulu se rapprocher d'Allah. Ils n'ont pas voulu désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont voulu se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses actions. Mais comment ils ont voulu se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Avec les enseignements du prophète, alayhi salatu wasalam? Non, ils n'ont pas voulu se rapprocher avec les enseignements du prophète, alayhi salatu wasalam. Ils ont voulu avec leur hawa, avec leur nefs. Et là est le point essentiel. Il y a une qaïda à savoir. Parce que la bid'a, comment elle se reconnaît? Elle se reconnaît avec cette qaïda qu'on va vous mentionner. Que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit Kullu amrin dhakiruni bil hadith. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Tous ceux qui vont innover une chose que nous n'avons pas enseignée, fa huwa radd. Cet enseignement est à rejeter. Voilà. C'est cette qaïda. Si maintenant tu vois quelqu'un qui fait une innovation, mais attends, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui fait une innovation, tu vas venir le voir, tu dis écoute mon frère, toi t'es un innovateur en religion. C'est pas ça, mon frère. Je dis, je laisse, tu le fais s'asseoir à côté, tu commences à parler avec lui. Machallah, ça fait plus longtemps que tu fais la prière, mon frère? Non, ça fait pas plus longtemps, ça fait depuis deux jours. Ah, d'accord. Ben, Inch'Allah, tu sais, ce serait bien d'apprendre un petit peu la religion, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Tu vois, avec un usloub, avec une façon gentillesse. C'est pas tu viens et tout de suite tu vas l'allumer, tu vas l'incendier. Et puis là, il va accepter. Tu dis, parce que tu sais, dans la prière, ou bien dans le jeûne, ou dans la religion, il y a des choses qui font partie de la religion, et des autres choses qui ne font pas. Même s'il faut, tu discutes une demi-heure avec lui, et après tu reviens. Tu vois, tu sais, après là, tu te familiarises avec lui, et lui il se familiarise avec toi. Et après tu lui dis, tu sais, mon frère, je t'ai vu faire ça dans ta prière et tout. Tu m'excuses à la poulie. Elle va dire, non, au contraire, conseille-moi. Et là, tu lui dis, tu sais, ça, c'est pas une chose qui se fait, ça ne fait pas partie des conditions de la prière, ça ne fait pas partie des obligations de la prière, ça ne fait pas partie des sunnas de la prière, ça ne fait même pas partie des choses qui sont permises dans la prière. Donc, faut pas faire ça, mon frère, parce que là, il va dire, ah, machallah, barakallah. Mais si tu viens, tu sais même pas qui est la personne qui est en face de toi. Tout de suite, tu viens l'incendier, lui dire, non, et tout, c'est pas bien, tu sors tes yeux comme ça, tu vois, comme s'il y avait des éclairs qui sortaient. Il faut parler avec les gens, il faut essayer d'acquérir leur cœur. Acquérir le cœur. Même si t'as pas pu lui faire la nasiha tout de suite. En vérité, toi, dans ta tête, tu sais que d'ici une semaine, 10 jours, tu vas essayer de rester en contact avec lui. Tu l'appelles, vous téléphonez. Et un jour, quand tu vois que maintenant il est prêt à apprendre la nasiha, tu dis, tu sais, regarde, il y a des gens, des fois, ils font n'importe quoi. Regarde, j'ai vu une personne, regarde comment elle a prié. En vérité, tu es en train de parler d'elle. Lui, c'est pas que tu es en train de parler, parce qu'il va partir avec toi dans la conversation. Ouais, j'ai vu une personne, elle a fait ça, mais ça, c'est le prophète, alayhi salatu wasalam, il a pas fait ça. Voilà comment il a fait ça. Là, il va te regarder comme ça, MashaAllah, jazakallah khair. Ne peux que te remercier, mon frère. Mais si tu viens avec une batte de baseball et tu dis, écoute, mon frère, viens voir, je vais t'expliquer deux mots. Il va pas l'accepter. Aujourd'hui, malheureusement, nos frères et nos soeurs, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils voient un nouveau. Hier, il était encore dans la rue, aujourd'hui, vers la mosquée. Il ne sait pas encore. Ils se font allumer. Combien on en a vu des frères comme ça? Ils ont commencé à faire la prière. Ils se sont fait allumer. Aujourd'hui, ils sont ressortis du din. Ils sont ressortis. Ils disent, ouais, moi et tout, je savais pas faire un frémant. Gueuler comme si j'étais un vieux chiffon. C'est pour ça que da'wa, il y a uslub da'wa. C'est pas tu viens, tu fais da'wa comme tu veux. On fait pas da'wa comme on veut. On fait da'wa comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait. Si tu n'es pas prêt à patienter, à endurer les insultes, les frappes et tout. Et encore, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous, personne ne nous a insultés, personne ne nous a frappés. Peut-être des insultes, Allah alim. On le sait qu'il y a des insultes qui se baladent à droite à gauche. Et le sunnati wal jamaa, ils ont toujours été comme ça, insultés. Des frappes, alhamdoulilah, nous, ici en France, on n'a pas été frappés. Mais il y a des pays, que je peux vous citer, ils se sont fait matraquer. Il y a eu des descentes. Il y a eu des descentes dans les mosquées, et puis il y a eu des bagarres, il y a eu des frapperies, il y a eu des ceci. Cheikh Najmi, hafidahullah, il a plus de 80 ans. Cheikh Najmi, c'est le shir de Cheikh Rabia. C'est un de ses professeurs, parce qu'il en a eu plusieurs. Ah ben, il ne le raconte pas lui, mais un shir qui part sur Cheikh Najmi, lui dit une fois qu'il était en train de faire un bas sur Tawhid. Alors il y a des soufis qui n'acceptent pas qu'on parle des walis, des ceci, cela. Ils sont venus un jour et ils ont fait une descente, ils l'ont matraqué. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Il y en a plein comme ça, fils habillé de da'wa, qui se sont fait frapper. Regarde Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Toute sa vie, il a passé où? En prison. Regarde l'imam Ahmed ibn Hanbal. La moitié de sa vie, il a passé aussi en prison. Ça, c'est connu, ça. Hadith sunnat Allah fait khalqi, c'est comme ça. Quand tu es dans le chemin des pires prédécesseurs, tu vas voir toutes les vipères et les loups qui sont autour de toi. Tu vas les voir. Il suffit que tu empruntes le chemin des pires prédécesseurs et pour t'apercevoir que celui que tu croyais c'était ton ami, il devient ton ennemi. Toi, tu lui veux le bien, lui, il ne te veut pas le bien. Toi, tu lui fais des doigts, Allahumma hdihi ila sawa sabil, lui, il te dit Allahumma. On ne citera pas ce qu'ils disent. Tu vois? لأن الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين فالتوحيد هو الأصل الذي لا تصح الأعمال ولا تقبل إلا إذا كان صحيحا فهو الواجب الأول. Donc ça, le tawhid, c'est la première obligation que tout musulman doit comprendre. Même toi, le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, la première des choses à enseigner à tes enfants avant papa et maman, c'est la ilaha illallah. C'est une image que je viens de vous donner, attention. C'est-à-dire que la ilaha illallah, dès que l'enfant commence à grandir et qu'il commence à parler avec toi, tu dois lui expliquer ces choses-là. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Tu lui expliques, tu dis, tu sais, nous, on a aussi des jours de fête comme ça, c'est l'Aïd. C'est des jours de l'Aïd où on reçoit des cadeaux et tout ça. Après, tu lui fais la différence. Tu dis que ça, c'est... surtout quand il commence à avoir 5 ans, 4 ans, 5 ans, il commence un petit peu à mieux comprendre et qu'il entend les mots et tout ça, tu lui dis, voilà, il y a les muslimines. Les muslimines, ce sont ceux qui... ils aiment Allah et Allah les aime. Alors, comment ils aiment Allah? En faisant la prière, en étant gentil, en écoutant ce qu'Allah dit. Allah, il leur donne des cadeaux. Ou bien, leur toujours avec les cadeaux. Tu leur viens avec les cadeaux et les enfants, ils acceptent. Ils aiment bien les cadeaux. Après, tu lui parles du paradis. Tu lui parles pas de l'enfer tout de suite. Du paradis. Tu sais, au paradis, il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de cadeaux. Tu lui fais aimer ces choses-là. C'est comme ça qu'il faut que tu mettes la graine du tawhid dans le cœur des enfants. À tel point que j'ai entendu un enfant une fois, Jazakallah khair, il m'a fait plaisir. Et c'est surtout ses parents qui m'ont fait plaisir. Il a fait, tu sais, ami. Il est venu à la maison, il m'a fait, tu sais, ami. Je dis quoi? Il m'a dit, tu sais, les non-muslimines, c'est comme ça, les non-muslimines, ils disent bon Noël, nous on dit bon Eid. Ça fait plaisir. Il dit, nous on attend l'Eid, nous, notre fête c'est l'Eid, on attend les cadeaux de l'Eid. On n'attend pas les cadeaux de Noël, c'est pas pour nous. Ça fait plaisir. Voilà comment tu marches avec ton enfant. Explique le tawhid petit à petit. Tu lui expliques, tu dis, tu sais, celui qui est capable, qui a de la force, c'est Allah. Eux sont impressionnés par ces choses-là. C'est Allah qui a de la force, c'est Allah qui est capable de faire toutes choses, c'est Allah qui donne, c'est Allah. Et là, ils vont commencer à aimer Allah. Dis-lui, explique-lui des choses comme ça. Nous, on ne vient pas. On ne vient pas avec ces méthodes-là, et après, on s'étonne que nos enfants, ils ne connaissent pas le tawhid. فهو الواجب الأول الذي تبنى عليه الواجبات كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, واستغفر لذنبك, et demande le pardon pour tes péchés. Ici dans ce verset-là, فبدأ بالتوحيد والعلم به والإقرار به والتحقيق به ثم ثنى بعد ذلك بالعمل ومنه الاستغفار وبقية أنواع العبادات. Pour terminer ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a commencé par
sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après l'acte c'est quoi? De demander le pardon de tes péchés. Donc il n'a pas dit d'abord demande le pardon, il dit d'abord sache à qui tu dois demander le pardon, à Allah l'unique. فَبَدَ بِالْتَوْحِيدِ وَالْعِلْمِ et la science du tawhid وَالْإِقْرَارِ بِهِ et donc la conviction des choses, l'acceptation des choses, après les actes viennent ensuite. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ.